Décryptage, Marie Cazadebé.
Croissance démographique, augmentation de la consommation, pollution et réchauffement climatique, un cocktail détonnant que décrit le dernier rapport des Nations Unies sur les ressources en eau de la planète. À ce rythme, près de 5 milliards de personnes pourraient souffrir de pénurie en 2050. Mais ce que ce rapport montre surtout, c'est que lorsque l'on parle d'eau, on parle d'inégalité. Les ressources ne sont évidemment pas les mêmes d'une région à l'autre, mais les moyens d'accès non plus. On peut manquer d'eau potable dans un pays qui en regorge. Dans Décryptage, on va s'arrêter sur les grands enseignements de ce rapport avec nos invités. Bienvenue à tous. Bonsoir David Blanchon.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des questions de gestion de l'eau en Afrique subsaharienne. Et vous êtes membre du réseau international de chercheurs en sciences sociales sur l'eau. Nous sommes aussi en ligne avec Laure Criqui. Bonsoir.
Bonsoir.
Consultante indépendante, spécialiste de l'accès à l'eau en ville. Alors sur la planète, selon donc ce rapport des Nations Unies, 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable en toute sécurité. Cela représente un peu plus de 2 milliards de personnes. David Blanchon, est-ce que ça signifie que les ressources en eau sont insuffisantes pour la population mondiale, ou est-ce que c'est un problème de distribution ?
Alors, c'est avant tout pour l'accès à l'eau pour les personnes, hein, l'accès à l'eau potable pour les personnes les plus défavorisées, c'est avant tout un problème de distribution de l'eau et de gestion des systèmes de distribution d'eau au niveau notamment des villes et des zones rurales. Parce qu'il faut voir qu'au niveau mondial, à peu près 70% de l'eau est consommée par l'agriculture, c'est l'énorme partie. Seuls 20% pour l'usage à l'eau, l'accès à l'eau potable, et en gros 10% pour les usages industriels. Donc, pour l'eau potable, l'accès à l'eau potable, c'est vraiment une question plutôt de distribution, parce que les volumes, notamment par rapport à l'agriculture, sont relativement faibles. Et il y a assez peu de villes dans le monde qui manquent de ressources en eau.
Est-ce que on peut superposer des cartes, par exemple avec les régions les plus touchées par un mauvais accès à l'eau et les régions où les ressources en eau sont les plus faibles, où finalement ces cartes ne colleraient pas ?
Alors, en partie, évidemment, ça correspond, hein, puisque dans les régions où la pression sur les ressources en eau est très forte déjà, notamment en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, eh bien, il peut y avoir des problèmes de ressources propres, mais ces cartes ne collent pas, parce que si on regarde, par exemple, la République démocratique du Congo, les ressources sont extrêmement abondantes, hein, il pleut énormément, mais là, c'est quasiment un des pays où les ressources, l'accès à l'eau est le plus difficile et le plus faible. Mmh. En revanche, vous avez des pays, bon, pensons aux pays du Golfe, hein, où il n'y a quasiment pas d'eau disponible à cause du dessalement, grâce au dessalement. Allemands, je dirais, bien, l'accès à l'eau, il y a même un gaspillage de l'eau dans ces pays, hein, il y a des pistes de ski, etc. Donc on voit que s'il n'y a pas de corrélation, ce qui compte plus que la ressource brute en eau, c'est la capacité d'adaptation des États et des métropoles.
Laure Criqui, est-ce que ça signifie que l'accès à l'eau reste avant tout une question politique ?
Oui, effectivement, c'est politique, c'est aussi social, évidemment, puisque ça vient se calquer, en l'occurrence, si les cartes en termes de ressources ou de distribution ne sont pas parfaitement équivalentes. En revanche, on trouve très souvent une corrélation au niveau des villes, par exemple, entre les cartes, entre des quartiers aisés qui vont avoir accès à l'eau via un réseau et à relativement faible coût, et des quartiers plus précaires, les bidonvilles, les zones périurbaines, qui, elles, en revanche, vont être extrêmement contraintes en termes d'accès à l'eau. Donc, là, on a des enjeux sociaux, économiques et politiques en termes d'inégalités qui se jouent au niveau local et qui ont à voir avec des choix et des stratégies qui sont prises par les autorités publiques.
Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi l'investissement dans des infrastructures de distribution d'eau et d'assainissement n'est pas une priorité dans certaines régions du monde et dans les villes ou les pays dont on dit qu'effectivement l'accès à l'eau est très difficile ?
Oui, alors c'est extrêmement compliqué. Il est sûr que le rapport de l'ONU indique que si l'on veut atteindre les objectifs de développement durable en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement pour 2030, on aurait besoin de 3 fois plus d'investissement que le stade où on en est à l'heure actuelle. Par conséquent, l'enjeu est là d'arriver à se rendre compte que ces investissements qui sont nécessaires pour l'eau et à l'assainissement sont en fait rentables en un sens. Et on peut attendre, plusieurs études montrent que 1 dollar ou 1 euro investi dans l'eau va rapporter le double en termes de croissance économique, de réduction des dépenses de santé ou de gain de temps tout simplement au niveau des populations. Et pour l'assainissement, c'est 5,5 le rapport. Donc,
parce que faire de l'assainissement et de la distribution de l'eau une priorité, c'est éviter évidemment beaucoup de problèmes sanitaires, des maladies notamment.
Oui, évidemment, bon, notamment sur l'assainissement, hein, qui est, comme l'indique le rapport, de nouveau très en retard par rapport à l'accès à l'eau potable et aux autres services essentiels. C'est éviter des maladies, évidemment, mais c'est éviter aussi, quand on met en place des politiques d'assainissement, une contamination des sols et des eaux qui vont, sur le long terme, en plus, impacter les ressources disponibles en eau. Donc là, on a un cercle vicieux, en un sens, qui se met en place. Alors que, à l'inverse, mettre en place, par exemple, des politiques d'assainissement vont permettre de préserver sur le long terme la ressource.
Alors, exemple avec Madagascar, où une personne sur deux n'a pas accès à de l'eau potable. Extrait d'un reportage Antananarive, la capitale, auprès d'habitants obligés d'aller à une borne fontaine, et d'une ONG spécialiste de l'assainissement. Je me lève tous les matins à 5h30 pour aller chercher de l'eau avant de partir au travail. Un bidon coûte 50 ariars. J'en ai besoin pour préparer à manger le soir. Toute l'eau est consommée à la fin de la journée. Il faut que je revienne tous les jours.
Les bidons que je remplis, c'est pour les gargotes et les salons de coiffure du quartier qui n'ont pas accès à l'eau courante. J'en livre environ 30 par jour.
C'est au niveau de la santé publique parce qu'actuellement, la diarrhée constitue la deuxième cause de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans à Madagascar. Il y a plus de 14 000 enfants qui perdent leur vie chaque année à cause du manque d'eau et d'assainissement.
David Blanchon, je suppose que l'habitat informel et l'évolution des bidonvilles est un frein à l'installation d'infrastructures pour la distribution de l'eau.
Alors, c'est évidemment... Je présenterai pas ça comme un frein. Je dirais que plutôt les municipalités centrales n'ont pas les moyens de suivre l'accroissement exponentiel souvent des villes africaines. Et moi j'ai travaillé par exemple à Khartoum. Bon, il se trouve que la ville s'étend sur des kilomètres et des kilomètres parce que tous les nouveaux arrivants, c'est une ville assez basse et donc effectivement ça coûte extrêmement cher de tirer des tuyaux pour une ville, pour une seule unité d'habitation lorsqu'on le fait sur 10, 15, 20 kilomètres. Donc c'est extrêmement difficile de suivre le développement urbain et finalement on a l'impression que les municipalités, même quand elles ont une certaine bonne volonté, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas les moyens d'aller aussi vite que l'accroissement urbain, notamment dans les villes africaines. Et il faut voir une chose, c'est que en plus, généralement dans les villes africaines, plus on est pauvre, moins on a accès à l'eau. Donc l'accès et en plus plus on la paye cher. Donc il y a une double injustice, hein, moins on a accès à l'eau parce que on est obligé de passer par différents intermédiaires, ce qui fait que on paye souvent cette eau 2, 3, 4 ou 5 fois plus cher que dans le centre-ville.
Alors on parle là d'accès de distribution de l'eau, mais certaines régions sont déjà confrontées à un manque d'eau. L'Australie par exemple, qui traverse en ce moment une sécheresse historique accompagnée d'incendies. Benjamin Hailey est climatologue à l'université de Melbourne.
Toute politique qui concerne le climat est depuis plusieurs années une source majeure de contentieux. Nous n'avons pas réussi à fixer de prix au carbone, par exemple. Et le débat se cristallise beaucoup là-dessus en ce moment. Du coup, on parle peu du problème global. On ne s'intéresse pas assez à la gestion des ressources d'eau, notamment. Dans le sud de l'Australie, on constate des baisses très importantes, non seulement de la pluviométrie, mais des nappes phréatiques aussi. On peut faire beaucoup mieux dans de nombreux domaines pour atténuer l'impact du changement climatique. D'autant que les Australiens voient que l'environnement se dégrade. Ils aiment la nature exceptionnelle de leur pays. Ils tiennent donc à préserver leur environnement.
David Blanchon, c'est une autre grande ligne, évidemment, du rapport des Nations Unies, l'impact du réchauffement climatique. Est-ce que là, par exemple, en Australie, c'est un cas évident d'effet de l'évolution du climat ?
Alors, on a l'habitude de dire que l'impact du réchauffement climatique va se produire dans les 20-30 prochaines années et qu'on ne peut pas relier encore tout à fait chaque événement au changement climatique. Hein. Donc, il faut être relativement prudent. Ce qui est clair, c'est que le changement climatique, il aura ses effets majeurs dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire que ça va se traduire probablement par une accentuation du cycle de l'eau, probablement plus d'inondations dans certains endroits et plus de sécheresses, des sécheresses plus longues dans d'autres endroits. C'est-à-dire une augmentation de la variabilité. C'est ce que on pense actuellement. Le problème, c'est que l'impact majeur du changement climatique, donc ça va être sur le changement des cycles de l'eau, et qu'actuellement, on a un grand manque de prévisions scientifiques encore. Par exemple, sur toute la région sahélienne, les modèles divergent. C'est-à-dire que sur le Sahel, on ne sait pas s'il y aura plus d'eau ou moins d'eau. Il y aura probablement des endroits où il y en aura plus, d'autres où il y en aura moins. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, c'est extrêmement difficile actuellement. Le défi du changement climatique est devant nous et c'est un défi extrêmement grave. Et comme on ne sait pas dans quelle direction exactement aller, pour la France, par exemple, on se dit que ça va être un peu plus sec les étés vont être plus secs dans le sud, les hivers vont peut-être être plus humides dans le nord, donc plus d'inondations dans le nord, plus de sécheresse dans le sud, mais ça reste encore extrêmement difficile à mesurer. Et ça reste, ça veut dire qu'en fait, il faut déjà qu'on arrive à améliorer énormément la gestion du cycle de l'eau maintenant, à résoudre les défis dès maintenant, pour pouvoir s'adapter, tant bien que mal, aux défis qui vont avoir dans, qui vont se poser encore plus de façon grave dans 20 ou 30 ans.
Oui, Laure Criqui, parce que le réchauffement climatique n'est pas le seul facteur de la raréfaction de l'eau. On peut évidemment parler peut-être de croissance démographique, mais aussi de consommation de l'eau.
Oui, absolument. On a par exemple, peut-être dans une situation proche de celle de l'autre année, il y a eu la ville du Cap en Afrique du Sud qui, l'année dernière, a été face au risque du jour zéro, c'est-à-dire le jour où il n'y aurait plus d'eau pour la ville du Cap. Conséquence du changement climatique, sans doute, en tout cas en partie, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette perspective, les autorités ont mis en place des actions de gestion de la demande. Et avec cette gestion de la demande, des campagnes d'information, de sensibilisation, elles ont réussi à changer les pratiques de consommation des populations, que ce soit les populations aisées ou les populations plus précaires, et ont comme ça pu éviter finalement ce jour zéro. Alors, tout l'enjeu est là d'arriver à sortir des situations d'urgence, ne pas seulement être en réaction quand il y a une crise qui arrive, mais arriver de manière générale et normale, je dirais, à intégrer ces questions de gestion de la demande et donc de compréhension aussi de comment les gens utilisent l'eau, pourquoi, pour quels usages, afin de pouvoir arriver là à une gestion intégrée de la ressource et des consommations.
David Blanchon, dans ce fameux rapport, on parle d'un accroissement de la population, 10 milliards de personnes en 2050 au lieu de 8, et aussi d'une consommation qui pourrait augmenter de 50% en 2050. Ça veut dire quoi ? C'est que les gens vont... Bon, évidemment, il y aura plus d'hommes sur Terre, mais en plus, ils vont plus consommer d'eau dans les prochaines années ?
Alors, essentiellement, l'augmentation de la consommation, c'est en partie de façon indirecte, c'est-à-dire les consommations agricoles. C'est-à-dire que pour produire n'importe quelle nourriture, il faut évidemment de l'eau pour la faire pousser, que ce soit l'eau pluviale ou l'eau d'irrigation. Et donc, avec la hausse du niveau de vie, les gens d'ailleurs consomment un peu plus, la ration alimentaire s'améliore, notamment plus de produits transformés, plus de viande, et donc il y a plus d'eau incorporée dans l'alimentation. Après, pour l'eau urbaine, dans les grandes villes, évidemment, des pays émergents, on va monter, on monte d'une ration minimale de 25 jusqu'à à peu près 100, 150, rarement beaucoup plus, d'ailleurs, parce que, au bout d'un certain temps, la consommation du ménage, un bain, un nettoyage, une fois qu'on a atteint le minimum, on arrive à cette idée de 150. Donc, il y a quand même une limite dans la population, dans la croissance de la population urbaine.
Est-ce qu'il y a des infrastructures qui peuvent limiter cette consommation? Je pense à des progrès, même techniques, technologiques, ou au moins éviter le gaspillage d'eau. Est-ce que ça peut être une solution justement pour faire face à cette raréfaction ?
Laure a fait mention du Cap. Effectivement, on a beaucoup de d'objets techniques qui permettent de réduire la consommation d'eau. Dans les villes du Nord, c'est-à-dire Europe et Amérique du Nord, la consommation baisse à peu près de 2 à 3% par an, ce qui pose d'autres problèmes, mais la consommation baisse. Donc, on peut arriver assez facilement à réduire la consommation urbaine, ou au moins la limiter et éviter le gaspillage.
Décryptage, Marie Casadebé.
La suite de notre décryptage sur les problématiques liées à l'eau. David Blanchon, avec le réchauffement climatique, l'inégalité d'accès à cette ressource va s'aggraver. Vous l'avez dit, avec des régions de plus en plus riches en eau, d'autres plus pauvres. Mais est-ce que l'eau se partage ? Est-ce qu'une région peut bénéficier de l'eau d'une autre ? Est-ce qu'on va devoir partager ce bien de plus en plus rare ?
Alors, il faut voir que l'eau actuellement est gérée généralement par unité de bassin versant. C'est-à-dire que généralement, c'est chaque fleuve ou chaque sous-région règle son eau. Il n'y a pas de transfert d'eau à grande distance, sauf sous forme, entre guillemets, virtuelle, c'est-à-dire de l'eau incorporée dans les produits alimentaires. Mais généralement, ça se fait entre bassins versants. C'est une gestion qui est assez locale, même si il existe en Afrique du Sud, par exemple, ou encore en Californie, des transferts d'eau sur des grandes distances, l'eau du Colorado vers Los Angeles, vers Phoenix ou Tucson en Arizona. Donc, on peut transférer l'eau sur d'assez grandes distances. à mon avis, c'est pas la solution qu'il faut privilégier. La solution, comme Laure le disait juste avant, c'est plutôt une gestion de la demande, c'est-à-dire essayer de mieux gérer l'eau qu'on a, dont on dispose actuellement, pour éviter d'aller en chercher de construire des très grands barrages qui ont un impact quand même énorme sur l'environnement.
Un impact aussi sur les tensions géopolitiques. Les Nations Unies estiment que ces 8 dernières années, 263 conflits étaient liés à l'eau, 123 dont le déclencheur était directement lié à l'accès à cette ressource. On a souvent peur des guerres de l'eau, qu'un jour on doive se battre pour avoir accès à cette ressource qui est évidemment vital. David Blanchon, est-ce que ça existe vraiment, les guerres de l'eau?
Alors, moi, je serais personnellement très prudent sur ce terme de guerre de l'eau. Ce qu'il faut voir, c'est que l'eau est toujours liée à d'autres facteurs. Et c'est rarement le facteur premier. Là, vous avez parlé des bassins. Quand on gère un bassin versant, évidemment, l'eau, c'est le facteur dont on va parler et on va essayer de faire un traité. Donc, il y a des conflits liés sur cette ressource. Mais en général, dans les grands conflits dont on parle actuellement, que ce soit le bassin du Nil, le Proche-Orient ou encore le Mékong, généralement, l'eau n'est qu'un des facteurs et il faut prendre plusieurs dimensions. Par exemple, il y a des auteurs comme Pierre Blanc qui ont montré que, effectivement, dans le conflit israélo-palestinien, et certes, il y a un volet sur l'eau, mais il y a un volet extrêmement important sur la terre également. Et on ne comprend les tensions liées à l'eau dans cette région que si on prend l'eau et la terre en même temps. Mmh. Ou alors, ça peut être dans le bassin du Nil, c'est souvent l'eau et l'hydroélectricité, puisque les barrages sont faits pour produire l'hydroélectricité. Donc, les deux doivent être compris dans le même temps. Et c'est assez complexe, hein, généralement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on veut faire la paix, l'eau est un excellent moyen de faire la paix. Et il y a d'autres chercheurs, hein, comme David Brooks, par exemple, et d'autres, qui ont montré que dans le conflit israélo-palestinien, s'il y avait un traité global, une volonté globale de faire la paix, là, l'eau ne poserait aucun problème. Et au contraire, ça serait un facteur de coopération.
Alors, Criqui, on parle d'inégalité et donc de tensions entre pays, entre régions, mais est-ce que ces tensions peuvent exister au sein même d'une ville? On disait bien, et vous le citiez, hein, des cartes de villes où on voit bien que les plus riches ont accès à l'eau, les plus pauvres non.
Oui, bien sûr. Alors, de même que David, j'aurais du mal à dire qu'il y a des conflits qui sont directement liés à l'eau en ville. En revanche, l'eau, parce que symboliquement elle est essentielle à la vie et que c'est dans les villes souvent extrêmement contraignant pour les plus pauvres, va être cristallisateur de certaines tensions sociales. Et donc, il peut y avoir des mouvements de revendication de la part d'habitants de zones périurbaines ou de bidonvilles qui vont utiliser l'eau comme un levier dans leur demande de reconnaissance, par exemple pour obtenir des titres fonciers. Au Pérou, par exemple, à Lima, la demande du droit à l'eau a été un des premiers messages portés par les habitants des quartiers précaires, mais qui symbolisait leur souhait d'avoir accès aux services publics comme n'importe quel autre citadin, et y compris les personnes qui étaient raccordées auparavant déjà au réseau. Donc on n'est pas sur un conflit autour de l'eau, mais l'eau va être porteur et représentatif d'autres inégalités locales.
Pour conclure, David Blanchon, est-ce qu'il y a une information positive et encourageante dans ce dernier rapport des Nations Unies, histoire qu'on finisse sur une note d'optimisme?
Alors, il y a quand même des informations encourageantes. La première, c'est que bien qu'il y ait encore il y a un progrès, hein, entre 2000 et 2015 sur ces 20 dernières, ou 2019 même sur ces 20 dernières années, il y a quand même de plus en plus de gens qui ont un accès sécurisé, hein, même si le défi reste gigantesque, il y a un progrès. Je pense que s'il y a une deuxième chose dans ce rapport, c'est que on est sorti un peu aussi, et à mon avis à juste titre, du côté l'eau est une marchandise comme une autre. Le rapport le dit assez souvent, eh bien il faut investir dans l'eau, il faut des subventions, c'est pas grave, et l'eau est un droit avant tout, c'est un droit humain avant tout, ce n'est pas une marchandise comme une autre. Et donc là, je pense que ça ouvre aussi, et la solidarité est nécessaire, et ça ouvre quand même des perspectives qui changent un peu des visions qu'on avait par exemple dans les années 90, et qui ouvrent peut-être des perspectives encourageantes pour les 10 prochaines années, pour aller plus loin dans le progrès.
Ça me va bien de terminer sur cette note positive. Merci beaucoup David Blanchon, professeur à l'Université Paris-Nanterre. Merci beaucoup Laure Criqui d'avoir été en ligne avec nous, consultante indépendante, et merci à toute l'équipe de Décryptage, Éléonore Krenik, Laurence Sarniguet, Eugénie Ducret, Simon Carteret et Fabrice Violet qui étaient à la réalisation. Tout de suite un nouveau point sur l'actualité africaine sur RFI.